Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Accord cadre sous la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Il y a 8 ans que cet accord avait été signé entre 9 pays limitrophes de la RDC et l'Afrique du Sud. Hier 24 février, en marge de cette commémoration, une journée de réflexion a été organisée à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. À cette occasion, le coordonnateur du comité exécutif du mécanisme de suivi a fait savoir que si le programme établi pour la pacification et la stabilisation de l'Est de la RDC et de la région est appliqué à la lettre, la paix reviendra à l'Est du pays en l'espace de 3 à 6 mois. Quel bilan faire de l'accord cadre 8 ans après sa signature? Et comment faire pour obtenir son application intégrale et efficace par tous les signataires? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission Maître Lando Mafuta. Il est conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Il est le point focal du mécanisme national de suivi à Ituri. Bonsoir Maître Lando Mafuta.
Bonsoir, messieurs les journalistes. Je salue également mes co-débutateurs qui sont avec moi sur table.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national élu de Walika, le Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Maître Juvenal Mounoubo Moubi.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Maître Nixon Kambale, il est membre du groupe de travail sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il est aussi coordonnateur de l'ONG Centre pour la gouvernance. Bonsoir, Maître Nixon Kambale.
Bonsoir, je salue aussi l'honorable Juvenal et Maître Lando.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Il y a 8 ans, jour pour jour, sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies, 9 pays limitrophes de la RDC, avec elle ainsi que l'Afrique du Sud, ont conclu un accord au cadre pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. En marge de cette commémoration, une journée de réflexion a été organisée hier mercredi à l'hôtel du gouvernement. À cette occasion, le coordonnateur du comité exécutif du mécanisme de suivi a fait savoir que si les programmes établis pour la pacification et la stabilisation de l'Est de la RDC et de la région est appliqué à la lettre, la paix reviendra à l'Est du pays en l'espace de 3 à 6 mois. Claude Ibalanki l'explique au micro de Jacques-Yves Molima.
3 à 6 mois, oui, c'est le temps que ça prendra pour qu'il y ait accalmie totale, pour que les armes cessent de retentir et pour que la paix puisse revenir. Ensuite, ça prendra des années pour reconstruire et remettre la société au niveau qu'il faut.
Qu'est-ce qui devrait être fait rapidement, puisque vous dites en 3 à 6 mois?
Ce qui doit être fait, c'est vraiment très simple. Pendant les 25 ans passés, nous nous sommes attelés à combattre les symptômes, les effets de la guerre et de l'instabilité. Mais nous ne sommes jamais allés dans les causes profondes.
Quelles sont ces causes profondes?
Ben, y en a beaucoup. Je vous invite d'abord à lire ces programmes de pacification. C'est bien étalé là-dessus.
Vous pouvez les résumer en deux mots?
Il y a beaucoup et ils sont d'ordre différents. Mais nous avons pris le temps, une année, d'identifier catégories, d'abord de catégoriser ou de segmenter les problèmes. Ensuite, d'identifier, mais qu'est-ce qui cause ces problèmes? Que ce soit au niveau des communautés, au niveau des groupes armés locaux et étrangers, et ainsi de suite. Donc, c'est complexe, mais aussi simple.
Maître Lando Mafuta, je rappelle que vous êtes conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Vous êtes aussi le point focal du mécanisme national de suivi à Ituri. L'émission est aussi pédagogique, hein, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont oublié parce que ça fait 8 ans que cet accord avait été signé. C'est quoi l'accord cadre d'Addis Abeba? Maître Lando.
Merci beaucoup pour la question. L'accord cadre d'Addis Abeba, c'est une volonté de la RDC, de la région, de la communauté internationale, des bailleurs et finalement des pays garants de pouvoir mettre fin, de pouvoir trouver les solutions sur les causes profondes de la crise ou les causes profondes de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça ce qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba. Et pour cela, il fallait que la région apporte les diagnostics, la RDC apporte également les diagnostics, la communauté internationale apporte des diagnostics pour que finalement, lorsque ces diagnostics sont mis en exercice, on sont mis en action, qu'on arrive à parler paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Maître Lando Mafuta, 8 ans après sa signature, et s'il faut faire le bilan, n'est-ce pas, de cet accord cadre, qu'est-ce que l'on peut dire?
Déjà, pour parler des bilans d'un accord, par principe, un accord, c'est un instrument qui est signé sur base d'une présomption d'adhésion. Les partis qui sont présents, les partis qui prennent part dans la signature de l'accord, on le suppose le faire dans la bonne foi. Et 8 ans après, il y a certes des progrès qui ont été réalisés pour cet accord, mais il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une paix durable dans la région.
C'est un instrument, comme vous l'avez rappelé, qui avait été mis en place avec comme objectif de s'atteler aux causes profondes et de mettre un terme au cycle de violence récurrente de la RDC. Et 8 ans après, quelles sont les causes qui ont été identifiées par les mécanismes de suivi et qui peuvent expliquer aujourd'hui, n'est-ce pas, l'insécurité récurrente dans la partie est de la RDC?
Oui, ces causes-là sont nombreuses. Donc, si je me mets à pouvoir lire les unes et les autres, on peut passer toute une journée ici en fond de les lire. Mais seulement, on a essayé de les catégoriser. Il y a des causes endogènes, il y a d'autres qui sont exogènes. Et il y a des causes qui sont plus directes. Et il y a des causes qui sont liées à l'État congolais. Il y a les causes qui sont liées à la région, aux pays voisins. Il y a les causes qui sont liées à la communauté internationale et il y a les causes, bien évidemment, qui sont liées, n'est-ce pas, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Commission de l'Union africaine. En tout cas, ces différentes causes sont liées de plusieurs ordres. Mais nous avons catégorisé ces causes-là à quelques points de priorité ou de principes qui, une fois appliqués, je pense qu'on peut parler de la paix à l'Est.
À travers cet accord, la RDC s'était engagée à accomplir 6 missions, notamment continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'Est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Maître Lando, au sujet de la réforme du secteur de sécurité, on se rappelle que c'est environ plus de 15 ans que le processus de cette réforme a été enclenché. Mais un processus qui n'a jamais abouti. Pourquoi, à votre avis?
Oui, là, il faut aussi reconnaître qu'au niveau des services de sécurité, il y a des efforts énormes qui ont été faits. J'ai parlé sous le contrôle de l'honorable Juvenal qui participe à la commission défense de l'Assemblée nationale. Je prends un seul exemple. Vous savez que notre armée n'avait pas les effectifs recensés. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que c'est jusqu'à 65% d'effectifs d'armée qui sont recensés. Au niveau de la police, on parle de 95%. Ce sont des statistiques de 2017. Bien évidemment, il y a un espoir pour la poursuite de ces processus de recensement au niveau des services de défense et sécurité. Mais vous savez que finalement, il n'y a pas que ça dans les services de sécurité. Il y a aussi des petits mots qui ont continué jusqu'à quelques temps, qui n'ont pas été mis en œuvre pour que finalement on arrive à donner les résultats à 100%. Mais nous pensons qu'avec la détermination, avec la dynamique actuelle, parce que je lis dans les têtes des honorables députés, que je salue d'ailleurs, qu'il y a une volonté de pouvoir aborder des questions de réforme de l'armée dans les services de sécurité, notamment avec le vote de la loi sur la programmation militaire. En tout cas, ce sont des motivations comme ça qui nous poussent que finalement,
on va arriver à des objectifs à signer au niveau de l'engagement national numéro 1.
Voilà, là vous avez parlé des effectifs 65% au niveau des FRDC, 98% PNC, donc la police nationale, qui sont identifiés. Mais en termes d'équipement, n'est-ce pas, des services de sécurité, en termes, n'est-ce pas, de l'amélioration de la situation socio-économique des éléments qui font partie de ces services de sécurité, et pourquoi les choses n'ont pas évolué? Vous avez évoqué la loi de la programmation, mais pourquoi les choses traînent?
Oui, en tout cas, j'ai lu l'année dernière, on m'a dit que l'armée congolaise a été classée 8e armée dans l'Afrique. En lisant ces éléments, on me dit que les enquêteurs se basent sur l'équipement, sur le professionnalisme, sur tant d'autres éléments. Donc ça veut dire que finalement, au niveau d'équipement tel que vous dites là, il y a un effort qui a été fourni. Mais nous ne disons pas que cet effort-là a mis fin à tout le problème que l'armée pouvait avoir. Mais que nous disons qu'il faut consolider ces efforts, il faut continuer ces efforts pour que finalement nous arrivions à 100% dans la solution donnée en termes d'équipement.
Et au sujet de la consolidation de l'autorité de l'État, où en est-on avec ces chantiers?
Oui, la consolidation de l'autorité de l'État, c'est un chantier énorme. Qui a commencé, mais finalement, qui n'a pas aussi donné tous les résultats. Pourquoi? Parce qu'on parle aujourd'hui des groupes armés qui contrôlent encore des coins de territoire. Mais c'est un effort, nous sommes en train de travailler. Je me rappelle que finalement, par rapport à cette quête de la recherche de la consolidation de l'autorité de l'État, nous sommes à l'Ituri pour ça. Nous sommes à l'Ituri avec les groupes FPI. Quand vous partez à Nirumu, dans des villages tels que Geti, Aveba, Kamachi, et on vous dit que finalement là, il n'y a plus question de groupe armé, FPI qui règne. Mais c'est les FARDC, c'est la police nationale qui contrôle, qui ont imposé l'autorité de l'État. Mais seulement, l'autorité de l'État a une responsabilité au niveau divers, a une responsabilité étatique, a une responsabilité d'abord étatique, parce que finalement, c'est l'État qui doit imposer l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire. Mais l'autorité de l'État a aussi une responsabilité dans les réformes. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que nous saluons tout ce que les honorables députés promettent pour que finalement nous arrivions à imposer l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire national.
Merci, Maître Juvenal Monubu Mumbi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Et quel bilan vous dressez de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba 8 ans après sa signature?
Merci beaucoup. Je salue les co-débatteurs, Maître Lando et Maître Nixon Kambale. Le bilan est mitigé. Monsieur Guy, le bilan de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba est mitigé. Sans doute qu'il y a des choses qui ont été réalisées, des points positifs, il faut avoir l'honnêteté de les reconnaître. C'est comme la chute du M23, c'était une rébellion très menaçante à l'est du Congo, mais lorsqu'on voit des groupes armés qui se sont reconstitués et qui défient l'autorité de l'État, eh bien, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Sur le plan de la réforme du secteur de sécurité, il y a un cadre juridique qui existe. Il y a la loi organique de l'armée, la loi organique de la police, les statuts du militaire, les statuts du policier. C'est une bonne chose. Par rapport au contrôle des effectifs, il y a un travail qui avait été fait, mais moi j'ai toujours pensé qu'il fallait parachever parce qu'il reste des fictifs, des chiffres qu'on ne maîtrise pas et ça peut faciliter toutes sortes de détournements, des mauvaises gestions. C'est vrai qu'il y a un point positif ici, la formation. On a bénéficié quand même de pas mal de formations, c'est une bonne chose. Je vois cette brigade qui a été formée à Kindu grâce à la coopération avec la Belgique. Mais il reste vraiment des défis comme les DDR. Lorsque vous arrivez à Nitori, par exemple, les CODECO ne sont toujours pas intégrés dans la vie civile. Les FRPI également, malgré qu'un accord a été signé il y a quelques mois. Et il reste aussi un problème de suivi de la réforme elle-même. Un suivi qui devait associer aussi, pourquoi pas, la société civile et les partenaires extérieurs. Il reste aussi un document qui peut définir de manière claire quelle est la vision qu'est-ce qu'on veut, quel type d'armée dont on veut au Congo, et par rapport à quelles menaces et comment y faire face, comme on cela dans d'autres pays, comme des pays comme la France ou d'autres. Il faut aussi beaucoup d'efforts dans la lutte contre l'impunité. Il y a des officiers militaires qui continuent à pratiquer les business. Ils sont cités dans les rapports des Nations Unies, mais il n'y a pas assez de cas où on a vu la justice être rendue. Donc la lutte contre l'impunité au sein des FARDC, par exemple, au sein de la police, je crois que ça reste des chantiers. Et ça devait être facilité parce qu'il existe des structures de contrôle interne. L'inspection générale des FARDC, l'inspection générale de la police, telle que le président l'a réformée d'ailleurs. La réforme du secteur de sécurité, donc, vous voyez déjà, juste en analysant ces niveaux d'engagement ici, c'est mitigé. Il y a des choses qui ont été réalisées, mais il reste bien d'autres à réaliser. L'autorité de l'État, beaucoup de groupes armés, par exemple l'attaque qui a eu lieu dernièrement tout près de Goma, les officiels parlent des FDLR, c'est la thèse qui a été avancée, mais on n'est toujours pas sûr de savoir. On n'a pas une cartographie, comme je l'ai dit à un média local hier, de la localisation des groupes armés et les opérations, on ne sait toujours pas bien les coordonner avec la MONUSCO, donc il reste encore beaucoup de choses à faire.
Voilà, vous rappelez qu'il y a des défis à relever, notamment le DDR qui n'est pas effectif, parce que vous vous rappelez que la FRPI et les CODECO ne sont pas encore, la CODECO plutôt, ne sont pas encore démobilisées, et vous évoquez le fait que la lutte contre l'impunité n'est pas effective, le rétablissement, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État n'a pas encore abouti. L'accord cadre, c'est un accord auquel se sont engagés la RDC, les pays limitrophes de la RDC, l'Afrique du Sud, ainsi que certaines organisations supranationales telles que les Nations Unies, l'Union africaine et la SADC. Et les États devraient accomplir un certain nombre de tâches pour le rétablissement de la paix, et les organisations internationales s'étaient engagées justement à les accompagner plutôt. Et peut-on dire que la dégradation de la situation sécuritaire actuelle à l'est de la RDC pourrait être lié aussi au fait que certaines parties n'ont pas pu respecter leurs engagements par rapport à cet accord cadre, Maître Juvenal Mounoubou-Moumbi.
Oui, même si on n'a toujours pas la certitude sur les comportements de certains pays voisins, mais il reste à se poser la question, comment se fait-il que des rébellions comme les ADF restent, une rébellion comme celle-là reste active dans la zone de Beni, plusieurs Congolais ont été tués dans cette zone, plus de 1000 personnes tuées depuis que les atrocités ont commencé, et puis c'est tout près de l'Ouganda, et l'Ouganda connaît bien l'histoire des ADF. Alors, et pourtant, il y a des rencontres régulières, fréquentes entre les autorités des deux pays. Alors, que fait l'Ouganda? Quelle est la contribution de l'Ouganda contre définitivement les ADF Nalo? Les renseignements que l'Ouganda détient en rapport avec les ADF, est-ce que l'Ouganda les livre à la partie congolaise pour y mettre fin? Le procès Jamil Mukulu, le cerveau moteur des ADF, qui est en Ouganda, qui a été extradé en Ouganda à partir de la Tanzanie, quelle est la suite que l'Ouganda a réservée à son procès? Donc on peut quand même s'interroger sur l'attitude des pays voisins. Des rebelles du M23 qui avaient traversé la frontière qui se trouve au Rwanda, quel est le sort que le Rwanda a l'air à réserver? Parce qu'il suffisait pas seulement de les arrêter. Donc on peut quand même s'interroger sur les comportements des pays voisins, l'attitude des pays voisins. Je suis content que Maître Landou ait parlé de la bonne foi, et la bonne foi ne devait pas être que congolaise. La bonne foi, ça devait être la bonne foi de la région, parce que l'accord a trois paliers, l'accord cadre. Il y a les paliers congolais, il y a les paliers régionaux, il y a des engagements donc pour la RDC, pour la région, et des engagements pour la communauté internationale. Par rapport à la région, ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. La région a pris comme engagement de ne fournir aucune assistance ou soutien quelconque aux groupes armés. Les voisins se sont engagés également à ne pas héberger ou fournir protection aux personnes suspectées de crimes. On peut quand même, en faisant une évaluation, on s'est dit que là aussi c'est mitigé. Il y a des efforts que le Congo a fournis, mais les voisins, l'Ouganda, les Rwanda, les Burundis, quels sont les efforts qu'ils ont fournis? Quand on voit la situation, par exemple, dans les hauts plateaux et la plaine, au sud Kivu, il y a des groupes armés, soit d'obédience rwandaise, soit d'obédience burundaise là-bas. Et vous voyez vraiment, il y a un lien entre l'attitude de ces groupes-là et la situation qui continue à se détériorer dans cette partie du territoire.
Merci.
Bref, notre diplomatie doit beaucoup nous aider. On attend là un nouveau gouvernement, c'est-à-dire de nouveaux responsables ministériels. Il faut vraiment que chacun fasse son travail, et que si c'est de la diplomatie, il faut qu'elle soit sincère dans la région. Si c'est la défense, il faut vraiment qu'on ait une vision de ce qu'on veut et qu'on essaie d'imaginer, d'identifier, plutôt pas imaginer, mais identifier les menaces et comment y faire face.
Merci, Maître Juvenal Monoubo. Maître Nixon Kambale, membre du groupe de travail sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous êtes aussi coordonnateur de l'ONG Centre pour la gouvernance. Votre bilan par rapport à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, 8 ans après.
Oui, merci beaucoup Guy pour la question. Le bilan est très mitigé. Il y a beaucoup de défis. Certes qu'il y a certaines choses qui ont été faites. Ça a été signé par l'ANU, notamment passé par le roi de Nubo. Mais ici, moi, je reviens sur ce qui n'a pas été fait, ou le défi qui reste à faire. Ça veut dire, la présidence des groupes armés dans la partie orientale, elle laisse des clés de sachet de ce qui n'a pas été fait. Et surtout que c'est à cause de la présidence de l'activité de ces groupes armés, que cet accord avait été signé. Il s'observe évidemment, que ce soit du côté de la RDC, à quoi avec les engagements de la RDC, que ce soit par rapport à l'engagement de la région, il y a une hypocrisie dans la mise en œuvre de ces obligations. Et là, je peux paraphraser une élévation de l'ancien coordonnateur du mécanisme, Tonton Mamba, qui disait que, certes, même s'il y a des obligations régionales, voyons ce qui nous revient, ce qui revient aujourd'hui à la RDC, et malgré ce qui a été fait, et lorsque nous évaluons ce qui a été fait, on va constater évidemment qu'on est en deçà de la moyenne acceptable. Et qu'à ce titre-là, moi je pense que nous devons revenir sur ce que nous voulons. Et j'ai aimé lorsque le rabbi Dibénal a parlé de la vision. Quelle est notre vision? Quelle est l'approche à mettre en place pour mettre fin aux causes qui ont amené à la structure de l'accord cadre? Donc voilà le problème. Et il fallait constater que ce soit dans la réforme de l'armée, que ce soit dans la mise en œuvre du DDR, il se pose une question de l'approche à mettre en œuvre. Et c'est cette approche-là qui est toujours à la base de l'essai. On se souviendra que lorsqu'on décide de la mise de la formation de l'armée structurée intégrée, ce c'était de brasser tous les différents éléments ici du groupe d'armée ou des rébellions pour constituer une armée. Et cette méthode a continué jusqu'à ce qu'il ait servi même d'une méthode de tricherie, parce qu'à un moment donné, le gouvernement a décidé de lui intégrer les groupes armés. On a assisté à l'intégration à Katimini ou à la soumission de certains groupes armés aux formations qui s'apparentaient effectivement à des formations militaires. Ça, c'est quelque chose qui prouvait que nous n'avons pas une approche claire sur notre réforme de l'armée. En rapport avec le DDR, Laurent Juvenal est revenu sur ça. Et moi, je tiens à dire ceci. Cette pratique de chaque fois qu'il y a des accords avec les groupes armés, de les cantonner et de ne pas respecter les engagements du gouvernement, c'est parmi les facteurs qui permettent à ce que les groupes armés continuent à se créer et à se multiplier. On a parlé des FSI. Mais on oublie qu'à Kalungouta, il y avait des éléments cantonnés, mais ils se sont volatilisés et ils se sont reconstitués en groupes armés. Parce qu'évidemment, l'État n'a pas eu le courage d'assumer ses engagements vis-à-vis de ces groupes-là. Donc, il y a autant de facteurs. Et moi, je pense que si aujourd'hui nous avons encore des problèmes, nous devons repasser notre manière à mettre en œuvre nos obligations, nos engagements. Et à ce moment-là, nous saurons comment faire face au pays de la région qui ne respecte pas les engagements.
Maître
le comportement du pays de la région.
Mais Maître Juvenal a commencé à évoquer les engagements pris par la région. On peut rappeler certains de ces engagements ici. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Ça, c'est parmi les engagements pour la région. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux engagements pris par les pays limitrophes de la RDC?
Laisse-moi d'abord rappeler une chose. Dans la région, il y avait déjà le pacte international sur la sécurité et la paix de l'Ouvent dans la région de Grand Lagan. Et quand vous prenez ce pacte-là, il y a autant d'engagements et de protocoles à être signés entre les États de la région. Notamment le protocole sur la non-agression, la défense mutuelle. Je vais prendre deux. Il y a aussi le protocole sur la coopération judiciaire. Et quand vous prenez le protocole qui avait déjà été discuté, mais qui n'a jamais été signé par les États, il est dit que les États s'engageaient évidemment à coopérer en matière d'extradition, d'enquête et de poursuites judiciaires. Appelant seulement ces protocoles-là, et appelant l'engagement des pays de la région, qui est celui de ne pas s'éteindre, vous allez constater que aucun pays de la région ne fait jamais donner la peine d'extrader vers la RDC les personnes qui sont à la base de l'instabilité de la région. Je prends le cas de Kunda, qui est toujours au Rwanda, alors qu'il y avait un mandat qui était là, c'est contre lui. Nous avons le cas de Jaime Mukulu, qui est plus poursuivi en Ouganda au lieu de venir à la RDC, où ce groupe, évidemment, est auteur des exactions de la territoire de Beni. Donc, après ça, une insouciance pour les États de la région à combler ou à honorer leur engagement. Voilà pourquoi j'ai parlé au début de l'hypocrisie des États. Et je me dis même que la tendance qui se dessine, c'est de voir que les États ont adapté leur gouvernement à la persistance de ces conflits-là. Parce que, je me dis, le Rwanda, pour essayer de mêler la sécurité dans son pays, il fait passer le message comme moi, si vous n'obéissez pas, le FDLR va venir. Et le Rwanda fait tout pour mener le FDLR en RDC. La même chose à l'Ouganda. Parce que je ne peux pas comprendre comment l'ADF qui est une rébellion ougandaise ne s'est jamais attaqué durant les 5 ans ici à l'Ouganda, mais il n'attaque contre les populations congolaises. Et on se demande comment cela est possible. Pourquoi ces ADF ne s'attaquent pas aux Ougandais? Et l'Ouganda fait tout, même lorsqu'ils coopèrent, ils viennent chez nous et ils disent que nous, il y a des problèmes. C'est vrai, il y a une différence chez nous, mais on devrait, de même manière que l'Ouganda entretient certains rebelles qui sont sur le territoire ougandais, qui n'ont jamais été extradés de la RDC, le même que l'Ouganda et le Rwanda, on constate qu'effectivement, aucun de ces États, pratiquement de la région, ne s'est donné la peine à honorer ses engagements de ne pas préjuger. Et le cas de M23 était le plus patent parce qu'on a vu le Rwanda organiser, armer et même former la rébellion de M23.
Merci,
maître. Voilà autant de questions qui se posent et nous pensons qu'aujourd'hui, plus tard après, l'État est venu pour réévaluer les choses, recadrer si nécessaire et surtout à la RDC de se doter des visions sur le plan de la réforme, sur le plan des DDR et sur le plan des engagements avec le pays de la région.
Merci, maître Nixon Kambale. Et nous allons écouter les points de vue des auditeurs qui ont réagi par rapport à ces thèmes. Et maître Lando Mafuta, vous allez réagir à la réflexion qui vient de Kisangani.
C'est Gracia Bakajika depuis la ville de Kisangani. Moi, je pense que le bilan de cet accord cadre est négatif. D'ailleurs, ça prouve combien de fois la RDC est affaiblie sur le plan sécuritaire. La RDC devrait être même le premier pays bénéficiaire de cet accord pour la pacification et la stabilisation de la paix dans ces régions, car l'insécurité est devenue aiguë à l'est du pays et dans d'autres régions de la RDC. Malheureusement, depuis 8 ans, la RDC n'a rien bénéficié de cet accord par le pays co-signataire, dont parmi ces pays co-signataires, certaines sont le sujet même de la sécurité à l'est de la RDC. Donc, selon moi, pour appliquer intégralement et efficacement cet accord, il faut une union des forces armées de tous les pays signataires de cet accord et établir une loi pouvant sanctionner des pays complices à l'instabilisation des régions de l'est de la RDC. Et le gouvernement congolais ne doit pas attendre seulement les efforts extérieurs, mais il doit prendre ses responsabilités à main afin de protéger toute l'intégrité territoriale du pays.
Maître Lando Mafuta.
Merci pour la question. Je salue également l'auditeur. Bon, on peut comprendre que finalement, sa préoccupation est en quelque sorte fondée. Mais seulement, il faut savoir que l'application de cet accord par la RDC ne dépendra pas de la mauvaise foi des autres pays. La RDC fait sa part et la RDC est dans une démarche de pouvoir pousser aussi les autres pays signataires de l'accord de pouvoir faire leur part. Et voilà pourquoi plusieurs démarches diplomatiques sont faites dans le sens à ce que tous les pays de la région puissent être amenés à pouvoir appliquer l'accord de bonne foi. Et il y a aussi d'autres solutions qui sont données par rapport aux questions d'aide. Je ne voulais pas anticiper, mais seulement vous dire que nous, le mécanisme national de suivi, nous sommes en train de prendre part à l'écriture ou la rédaction d'un nouveau programme qui a été demandé par la communauté internationale pour répondre aux questions d'aider. Cette fois-ci, qui va vraiment commencer déjà dans les trois provinces pilotes, le Nord, le Sud, Kivu et l'Ituri. Ça ne sera pas fini parce que finalement, ce même programme va poursuivre dans les Tanganyika, pourquoi pas les Kasaï, pourquoi pas l'ancienne province orientale. Donc, il y a un programme qui est déjà en écriture, qui sera adopté avec le nouveau gouvernement qui arrive, pour que finalement, rapidement, on vienne à l'application des programmes d'aide. Pas oublier que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dit dans son discours sur l'état de la nation, fin des consultations, que son ambition était de fusionner les programmes STAREC et DD. Et là aussi, il y a un travail énorme qui a été fait. Donc, très prochainement, on assistera à la dénomination des animateurs et à la désignation des autorités qui vont travailler par rapport à ces programmes. Donc, ça veut dire qu'au niveau des questions d'aider, un travail de fond a été fait avec la bénédiction de l'État congolais, trouvera l'application facilement pour résoudre ces problèmes-là de DDR avec Codeco, avec
FRPI.
Mais avec les autres groupes répertoriés, et vous savez que dans ces programmes, c'est que les provinces vont avoir l'autonomie de pouvoir gérer des questions DDR et vont aussi travailler avec la coordination au niveau national pour que finalement rien ne soit échappé à l'État.
Maître Nando,
on va aussi imposer aux provinces de pouvoir, n'est-ce pas, travailler avec la communauté au niveau local.
Voilà, oui. À part la réactivation du DDR, qu'est-ce que vous proposez pour obtenir l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, son application intégrale et efficace par tous les signataires? Vous ne pensez pas que 8 ans après la signature de cet accord, que le moment puisse, n'est-ce pas, arriver pour qu'on puisse envisager d'évaluer, n'est-ce pas, cet accord avec toutes les parties signataires?
Merci beaucoup. Le mécanisme national de suivi était déjà dans une démarche d'évaluation. Mais le bémol est que finalement la fameuse crise liée à coronavirus a dû faire en ce que finalement la réunion, le 10e round qui était organisée pour évaluation de l'accord cadré avec les différents pays signataires a été reportée par rapport à la crise COVID-19. Donc, nous pensons qu'avec l'évolution des temps, il faut revenir sur l'évaluation de cet accord avec les pays signataires et les acteurs étatiques, les acteurs qui ont signé l'accord, en vue de pouvoir booster l'application de l'accord dans des parties où on observe zéro application jusqu'ici.
Merci Maître Juvenal Mounoubou-Moubi. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de la province du Kasaï.
C'est Farel Malas. Kasaï à Ilebo. C'est un accord qui reste depuis 8 ans qui sur le papier, sans une application stricte de mesures établies par les parties signataires. Il se manifeste que les dirigeants de tous les pays limitrophes et la communauté internationale, voire la RDC, personne ne suit de près cet accord pour voir où il y a le blocage pour engager, bien évidemment, de nouvelles mesures pour que la paix et la sécurité reviennent d'une manière intégrale et efficace. Donc, selon moi, tant que la légèreté continuera en bon train dans les chefs des partis signataires, rien de bon à espérer de cet accord.
Maître Juvenal Mounoubou-Moubi.
Je suis d'accord avec lui. C'est dans le management, dans la gestion sécuritaire, dans la gouvernance sécuritaire. La gouvernance sécuritaire, ça veut dire aussi le suivi des actions qui ont été prises ou envisagées. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et là, il nous pousse justement à l'idée de l'évaluation. Je crois qu'il faut évaluer l'accord. Hein. 8 ans, c'est quand même beaucoup. Il faut vraiment une évaluation. C'est vrai qu'il y a des réunions, des suivis de cet accord, mais je ne me rappelle pas qu'on a déjà fait une évaluation élargie de cet accord. Une évaluation donc qui mettrait autour d'une table le mécanisme national de suivi, qui mettrait autour d'une table l'envoyé spécial dans la région des Grands Lacs, qui mettrait autour d'une table les parlements congolais, pour qu'ensemble qu'on essaie de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'on puisse définir une nouvelle feuille de route avec un chronogramme à exécuter. Moi, je crois qu'il nous faut un travail comme celui-là. Et l'opportunité, c'est l'arrivée d'un nouveau gouvernement au Congo. Le gouvernement qu'on attend, qui devrait réaliser le plus rapidement possible cette feuille de route. Comme ça, les DDR dont on parle, ça ne reste plus un vœu pied. Mais que ces DDR produisent vraiment des résultats et que ça incite des groupes armés à libérer, disons, à donner des éléments pour être réinsérés dans la vie civile. Et on n'est pas encore arrivé donc à ce stade. Il faut cette évaluation, mais une évaluation qui peut nous pousser à franchir d'autres étapes positives. Et puis l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est aussi la décentralisation. On ne parlait pas assez. Et il faut qu'il y ait des progrès. Il faut permettre aux provinces d'être autonomes. Pas d'être indépendantes, mais d'être autonomes. Il faut que la retenue à la source des 40% des recettes à caractère national au profit des provinces soit une réalité. Et que Kinshasa ne continue plus à promettre une rétrocession, mais qui en réalité n'est pas réalisée et que les provinces souffrent. Les provinces donnent beaucoup à Kinshasa, mais Kinshasa ne rétrocède pas grand-chose. Il faut aussi qu'on arrive à des projets intégrateurs. L'accord cadre, c'est aussi le développement économique qu'il faut promouvoir. Les projets des routes. On ne sait pas s'imaginer entre Goma et Walikale 250 km, mais actuellement, on fait combien de jours pour arriver à Walikale? On fait 4 jours. Sur la route, parce que la route est en très très mauvais état, de même que l'axe Bukavu ou Walikale et Kisangani. Et donc il faut réhabiliter des routes. Si vous construisez la route ou vous la réhabilitez, elle contribue à chasser l'insécurité. Ça a été dit plusieurs fois sur la radio Capi. Il faut enfin la réconciliation nationale. La situation, par exemple, dans les hauts plateaux, la situation à Ituri, ça appelle à des actions de réconciliation nationale.
Voilà, vous avez parlé de la réconciliation nationale, l'évaluation de l'accord, vous avez parlé de l'amélioration de la décentralisation, et vous préconisez aussi qu'on puisse initier des projets intégrateurs. Vous pensez que ça peut être parmi les éléments, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider à faire notre part, n'est-ce pas, nous, l'État congolais. Mais à part ces facteurs que vous avez évoqués, vous ne pensez pas que pour obtenir l'application intégrale et efficace par tous les signataires, il faudrait préconiser une sanction à l'endroit des signataires? C'est vrai que l'accord n'a pas un caractère contraignant, mais est-ce qu'on ne peut pas proposer une sanction à l'endroit de toutes les parties qui refusent, n'est-ce pas, de respecter leurs engagements?
Oui, absolument, parce que chapitre consacré aux engagements sur le plan international, c'est-à-dire les engagements de la Commission nationale, il est dit que le Conseil de sécurité des Nations Unies resterait mobilisé pour apporter tout soutien pour une stabilité sur le long terme. Alors, s'il a peur qu'il y a soit un État qui ne contribue à la paix, qui semble être un blocage ou un frein, un État de la région, eh bien, il faut arriver à imaginer des sanctions. Vous savez que sur le plan international, un État peut être sanctionné. Il y a la Cour internationale de justice à ce niveau-là. Donc il faut préconiser aussi des sanctions. Si ce sont des individus, il faut bien préconiser des sanctions. Si les faits, il y a la Cour pénale internationale qui est entrée en vigueur bien avant l'entrée en vigueur de cet accord. Et donc il y a rien de voir des possibilités, surtout au niveau du Conseil de sécurité.
Merci.
Mais la lutte contre l'impunité, et avant que ça n'émane du niveau international, mais au niveau congolais, il faut bien qu'il y ait des sanctions.
Merci.
Contre ceux-là qui continuent à pratiquer, par exemple, le business, les mélanger avec leur travail sous le drapeau. Il faut bien qu'il y ait des sanctions sur le plan interne, la lutte contre l'impunité au sein des FRDC et au sein de la police.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo. Maître Nixon Kambale, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Kinshasa.
C'est Gilbert Loco à Luando. Je vous appelle depuis la ville de Kinshasa. L'insécurité à l'est de la RDC aujourd'hui, c'est un défi non seulement pour les 9 pays qui ont signé cet accord, mais aussi pour toute la communauté internationale qui est d'ailleurs aujourd'hui victime de cette insécurité. On ne peut rien attendre de cet accord, car qu'il est la volonté politique de toutes les parties engagées dans le processus de pacification de l'est du pays, y compris la communauté internationale qui n'est pas épargnée tant dans la cause que dans la conséquence de cette insécurité. À mon avis, sans entrer dans les détails de cet accord, qui d'ailleurs a été établi en tenant compte des intérêts égoïstes des uns contre les autres et souffre d'application pour cette raison. Je pense que l'implication personnelle du président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, comme président de la RDC et l'actuel président de l'Union africaine, pourrait avoir une réponse urgente, efficace face à cette situation pour sauver son honneur et l'honneur de la RDC après le passage de ce pays à la tête de l'Union africaine.
Maître Nixon Kambale.
Merci pour la question. Je crois que l'auditeur a parfaitement raison parce que on observe que certaines parties à l'accord cadre ne font pas mieux. En dehors évidemment des États de la région de la RDC, l'accord avait prescrit à la communauté internationale à faire des voix. Et j'observe que ces devoirs-là ne sont pas autant appliqués ou suivis par la communauté internationale. Et c'est ici l'occasion aussi de dire que la communauté internationale a un pilier essentiel en RDC, c'est la mission des Nations Unies au Congo, ou la CERMONUSCO MONUSCO aujourd'hui. Mais lorsque on essaie d'examiner le mandat, le début du mandat de MONUSCO, en le soumettant à l'obligation préalable pour la RDC, parce qu'il est dit dans toutes les résolutions sur la MONUSCO, que la sécurité, c'est d'abord le problème du gouvernement congolais, tout en sachant qu'il y a des parties entières du territoire qui sont occupées par les groupes armés, ou faute de personnel en offre. C'est vrai que le conseiller Lando a parlé de 5% de militaires déjà identifiés, mais on ne doit pas perdre de vue qu'il y a un territoire entier où on a à peine un ou deux policiers.
Mettenson, alors au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse appliquer de façon intégrale cet accord d'Addis Abeba afin que cessent toutes les tueries auxquelles on assiste à Beni et à Ituri tous les jours?
Bon, la première chose, évidemment, 8 ans pour évaluer l'accord. Il faut que chaque engagement soit évalué, qui n'a pas fait quoi et pourquoi on l'a pas fait. Si on arrive à faire une évaluation-là et qu'on relève les forces et les faiblesses, on pourrait évidemment arriver à une approche qui permettrait évidemment à ce que chacune des parties honore bien ses engagements. Et on pourra arriver à réduire facilement la situation de violence qui prévoit la grande partie orientale du pays, mais à la condition évidemment, comme tout le monde l'a dit, que cela soit fait de bonne foi et que chaque pays qui ait une volonté politique réelle,
merci.
Pas une volonté politique qu'on connaît.
Merci, Maître Nixon Kambale. Maître Lando Mafuta, nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion?
Oui, la conclusion est que les mécanismes nationaux de suivi et en pleine réflexion, des journées de réflexion qui sont organisées par rapport à ces 8 ans de l'existence de l'accord cadre. À l'issue de cette réflexion, le MNS vous produira les documents sur sa feuille de route qui est déjà analysée, qui est en train d'attendre la validation de l'autorité.
Merci.
Et le MNS reste ouvert à l'évaluation de l'accord cadre au niveau de la région, au niveau de la communauté internationale et au niveau de la RDC. Le MNS reste mobilisé à la recherche de la paix parce que finalement, sans la paix, il n'y aura pas de développement économique dans notre pays.
Merci. Maître Juvenal Mounoubou, votre conclusion?
La feuille de route du mécanisme national de suivi nous sera d'une grande importance. C'est une feuille de route qui doit être partagée avec les députés et il faudrait absolument qu'on fasse cette évaluation dont on a parlé ici, une évaluation qui associe le Parlement à la société civile. Comme ça, on enrichit la feuille de route du MNS, c'est-à-dire la feuille de route du mécanisme national de suivi, et puis qu'on voit dans quelle mesure on peut finalement réaliser des progrès, parce qu'il n'y a pas eu, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans la mise en œuvre de cet accord.
Merci Maître Nixon Kambale, votre conclusion?
Évidemment, ma conclusion est plus simple, c'est évidemment revenir sur la question de l'évaluation valable, tout à saluer ce que le MNS est en train de faire, évidemment la feuille de route, j'ai eu à discuter longtemps avec Lando sur cet aspect. Il fallait évidemment ce qu'elle veut faire, mais je dis que l'évaluation est très nécessaire en fait, ça au niveau interne, au niveau régional et aussi à l'Ebouda, notamment la société civile à tous les niveaux de l'évaluation.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique. Merci à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Savoujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.